19h sur Bac FM, début de soirée sous le signe de la santé. Vous écoutez Prévence, l'émission où l'on parle de notre corps humain, de ce qui lui fait du mal, mais aussi de ce qui lui fait du bien. Le 31 mai dernier, c'était la journée mondiale sans tabac, dans un contexte où le tabagisme baisse globalement en France. Réussite législative ou simple changement de génération, la France compte de moins en moins de fumeurs, et c'est tant mieux. Chez nous, une asso lutte contre ce fléau, et c'est donc avec plaisir que j'accueille la directrice de Tabagir, Françoise Hamelot. Bonjour et bienvenue sur Bac FM, Françoise Hamelot.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes avec nous par téléphone, on va parler des actus de Tabagir. Pour commencer, la journée mondiale sans tabac avait lieu le 31 mai dernier. C'est encore une journée importante, j'imagine, pour votre asso.
Oui, c'est un moment dans le calendrier annuel qui est très important. La journée mondiale sans tabac, donc le 31 mai, et le mois sans tabac qui se déroule en fin d'année en novembre.
Vous organisez différentes actions. Il y avait des actions particulières pour le 31 ?
Oui, on a fait. Alors, ce ne sera pas que le 31, mais on fait surtout avant et après, parce qu'on ne peut pas être déployé toute l'équipe au même endroit, enfin, à plein d'endroits au même moment, pardon. Et donc, du coup, on a programmé un certain nombre d'actions sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, hein, le territoire sur lequel nous intervenons, et puis aussi des actions qui sont programmées à venir sur la Nièvre notamment. Et on a pu faire une action, un nouveau type d'action, je dirais, à Auxerre, donc mardi dernier, ce qu'on appelle un mégoton.
C'est-à-dire ?
On mobilise des bénévoles ainsi que les salariés de Tabagir pour ramasser les mégots et essayer de faire un petit peu une sensibilisation aussi aux personnes que l'on croise et voir un petit peu le décret, vous savez qu'il y a eu un décret en juillet de l'an dernier interdisant de fumer dans certains lieux bien définis, pour voir un petit peu ce qu'il en était et si c'était respecté.
Je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas, vous insistez beaucoup sur l'impact environnemental du tabac. Pourquoi avoir choisi de mettre l'écologie et particulièrement les gens qui jettent leurs mégots au cœur de vos actions ?
Alors, c'est vrai qu'on cible aussi l'écologie, parce que nous, dans la prévention du tabagisme, on sait bien que le tabac, c'est une drogue et une drogue dure. Pour autant, la planète, elle souffre avec ces milliards de mégots qui sont dissimés sur les sols et dans la nature chaque année. En France, on en dénombre environ plus de 23 milliards.
Oui.
Donc, c'est quand même énorme, en sachant qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Et quand on dit que ça met plusieurs années à se dégrader, ça se dégrade jamais totalement, parce qu'il y a beaucoup de produits toxiques dedans, hein, liés à la combustion et aux pesticides, etc., qui servent à faire pousser les feuilles du tabac. Et donc, et les microparticules de plastique, parce que le filtre contient beaucoup de plastique. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on pense que ça se dégrade et que c'est effacé, alors que non. Il reste toujours des traces de ces mégots dans la nature, et sans parler de la pollution, et puis bien évidemment de tout ce qu'on retrouve. Ben, ça finit en général, on voit beaucoup de personnes jeter leurs mégots dans la bouche d'égout en pensant que c'est une poubelle ou que ça va être recyclé je ne sais où, alors que ça finit à la rivière et dans nos océans. Donc c'est aussi quelque chose d'important pour nous de prendre soin aussi de l'environnement. On entend de plus en plus parler avec cette planète qui se réchauffe. Et donc, on a souhaité sensibiliser les gens à faire en sorte de ne plus jeter leurs mégots au sol, par la fenêtre en voiture, ou même si on est dans un parc. Ben voilà, maintenant, il y a des cendriers de poste qui existent et c'est important de communiquer là-dessus.
Effectivement, vous avez raison. En France, on parle de 23,5 milliards de mégots jetés chaque année dans l'espace public. C'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on est à peu près 70 millions de Français. Donc, je vous laisse calculer à peu près ça fait combien de mégots par personne. C'est absolument gigantesque. Ça serait quoi les solutions, en fait ? Vous avez parlé des cendriers de poche. Alors, est-ce que ça pousserait pas aussi les gens à fumer ? Comment on pourrait faire, en fait ?
Alors, effectivement, certains ont cet argument-là, mais pour nous, l'idée, c'est de faire en sorte, déjà, les fumeurs savent aujourd'hui qu'ils sont dépendants, qu'ils sont pas libres de fumer, mais ils sont vraiment dépendants d'une substance et de la cigarette. Et l'idée, c'est de, bien évidemment, de les sensibiliser, de voir un peu où ils en sont quand on fait nos stands de sensibilisation sur leur consommation de tabac, leur niveau d'intoxication au monoxyde de carbone, Et par le biais de ce ramassage de mégots, c'était distribution de cendriers de poche, et puis aussi amener les gens à réfléchir quant à leur consommation et voir ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils envisagent de faire pour arrêter le tabac.
Le mardi 2 juin dernier, votre association organisait un grand ramassage de mégots et de déchets à Auxerre, au départ du parc Roscoff. Comment s'est passée cette action ?
Eh bien écoutez, on a mobilisé les salariés et des bénévoles, donc c'était une première, un mardi, un jour de semaine, plutôt pluvieux aussi,
en plus.
Mais ça ne nous a pas arrêtés. On a eu donc une dizaine de salariés et 4 bénévoles qui sont venus, qui nous ont rejoints sur le parc. Donc on a eu l'autorisation de la ville d'Auxerre, bien évidemment, de regrouper, en tout cas de mettre en place cette action. Et donc on a eu des partenariats avec... le stade auxerrois et le centre hospitalier d'Auxerre. Donc on a pu mettre en place 3 équipes de ramassage. On a ramassé des mégots pendant 2h30 sur différents sites. Donc sur Auxerre, c'est un gros parc au bord de Lyon qui s'appelle l'Arbre Sec, le stade auxerrois qui touche l'Arbre Sec. Donc ça, c'était les premiers sites. Ensuite, centre-ville, en passant vraiment par la rue du Temple et la rue de Paris, sur les 2 plus grosses rues du centre-ville d'Auxerre. Et puis enfin, l'hôpital. Et puis un autre groupe pour faire tout ce qui est boulevard et quai de Lyon. Donc là, c'est quand même des sites très très passants où il y a également beaucoup de stationnement et beaucoup de mégots. On a ramassé beaucoup de mégots.
Ça a mobilisé, ouais, vous l'avez dit, malgré la semaine et le temps parfois pas très agréable.
Oui, c'est ça. Vraiment, les personnes présentes ont été très motivées. Et on a pu ramasser, on a ramassé, donc on a pu peser les mégots. On en avait quasiment 2 kilos, donc ce qui représente à peu près, en sachant qu'un mégot, ça doit faire 20 et quelques grammes, enfin 0 et quelques grammes. Donc on a estimé à plus de 8600 mégots ramassés en 2h30.
Face à ce qu'on pourrait appeler l'urgence de la situation, ça en fait des mégots. Est-ce que d'autres actions comme celle-ci seront réitérées ?
Alors oui, c'était une première, hein, comme je vous le disais, et pour nous, c'est important de pouvoir communiquer et sensibiliser les gens dans ce contexte aussi environnemental que d'addiction, parce que je lâche pas le truc, c'est pas facile d'arrêter le tabac, et c'est aussi pour ça que Tabagir existe, sans culpabiliser bien évidemment les fumeurs, mais c'est sensibiliser aussi aux déchets en général, parce qu'on a pu aussi ramasser pas mal de déchets, et ça, il faut savoir c'est que les rues, les parkings, les parcs ne sont pas des poubelles. Il y a des poubelles ici et là et qu'il faut les utiliser pour quelques déchets que ce soit, et le mégot y compris.
Dans mon introduction, je disais qu'il y avait de moins en moins de fumeurs en France, mais ça, c'est mes chiffres nationaux, si vous voulez. Est-ce que vous observez ça aussi à l'échelle locale ?
Alors, on n'a pas les chiffres, malheureusement, au niveau départemental. En région Bourgogne, il y a une légère baisse, mais moins significative qu'au niveau national, en termes de nombre de fumeurs. Pour autant, on a moins de jeunes qui fument, ça c'est sûr. La tendance est vraiment vers une génération sans tabac. C'est bien les objectifs et on tend vers, mais il faut encore du temps, il faut encore de l'énergie, des sensibilisations pour que tout le monde soit informé. Du fait que c'est difficile d'arrêter de fumer, que Tabagir est là aussi pour les accompagner.
C'est une vraie réussite, hein, des associations comme la vôtre. Est-ce que les différents assemblages législatifs, je pense évidemment à l'augmentation du prix du paquet, contribuent aussi à cette baisse, ou est-ce que c'est finalement juste une mesure pour taper au portefeuille ?
Non, c'est vraiment une mesure qui a un impact direct sur l'arrêt du tabac. C'est-à-dire que si on met en place une augmentation de 10%, ça passe des caps en fait psychologiques pour les fumeurs qui disent « Non, on a passé ce cap, c'est bon, j'arrête, c'est terminé. » Et c'est aussi un élément très important. Ça fait partie d'une politique globale de lutte contre le tabac, contre l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le paquet neutre, la taxation qui augmente régulièrement, la mise en place aussi, parce que ça, tout ça, c'est des interdictions, mais il y a aussi eu la mise en place du remboursement des traitements pour arrêter de fumer, donc ça, c'est pas rien. Quand on va consulter et qu'on a une prescription, on peut se faire rembourser le traitement. Quand on est malade du tabac, on va voir un professionnel de du tabac et on a une prescription et c'est remboursé par la Sécu. Donc c'est important de le savoir, parce qu'avant, c'était pas le cas. Il y avait juste un forfait, et encore avant, c'était pas du tout remboursé. Donc c'est quand même une avancée aussi en termes de politique de santé publique.
Je crois que vous étiez avec nous il y a quelques mois quand on a reçu l'infirmier scolaire de Raoul Folleroy ainsi que deux élèves qui fumaient beaucoup et pour nous raconter leur parcours et leur expérience. Et elles disaient que quand elles achetaient des cigarettes électroniques, ce qu'on appelle des puffs, alors certaines sont interdites, d'autres non, c'est un peu particulier, on avait un peu l'impression de rentrer dans une fête foraine. Ça brillait de partout, il y a des couleurs vives, parfois en partenariat avec des licences de la pop culture. Est-ce qu'il faudrait arriver pour les cigarettes électroniques à faire ce qu'on fait pour les paquets, je dirais, classiques, c'est-à-dire rappeler que fumer tue, en fait?
Alors, la cigarette électronique, ce n'est pas fumer, hein, c'est vapoter, c'est un petit peu différent. Mmh. Mais oui, on a toujours, malgré l'interdiction de vendre des puffs aux mineurs, les cigarettiers ont contourné, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les cigarettiers hein, qui ont racheté toutes les licences de fabrication des cigarettes électroniques, il faut le savoir. Et donc, ils ont détourné l'interdiction de vendre des puffs aux mineurs en vendant les puffs en plusieurs morceaux. Donc, ce qui fait que les jeunes ont encore accès aux puffs, et ça c'est quand même bien dommageable, je pense. Si déjà on respectait l'interdiction de vente de tabac et de puffs aux mineurs, ça avancerait aussi. C'est une étape, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément respecté partout, même si c'est interdit. En France, on a plutôt tendance à braver les interdits, j'ai l'impression. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, dans un parc enfant, donc c'est interdit depuis longtemps. Ça a été reformalisé en juillet l'an dernier. Pour autant, on a trouvé énormément de mégots autour des bancs dans les parcs. Vraiment, ils sont vraiment très délimités, hein, ces parcs où il y a des jeux d'enfants. Et dedans, il y a énormément de mégots. Donc, on a encore du travail à faire de sensibilisation des jeunes. Enfin, pas des jeunes et des moins jeunes, en fait.
Vous abordiez la question des cigarettiers. Il faut savoir que le lobby du tabac est très fort au niveau européen et pèse sur beaucoup de pays de l'UE. Est-ce que même à l'échelle associative, à l'échelle départementale, régionale, vous sentez ce poids de lobby?
Alors, pas au poids régional, parce qu'on a quand même un gros soutien de l'Agence régionale de santé, donc l'État, qui nous finance, qui finance Tabagir aussi bien pour les actions de prévention auprès des jeunes que pour toute l'activité aide à l'arrêt du tabac pour les fumeurs. C'est-à-dire que le fumeur paye une consultation normale chez le médecin, mais c'est une consultation qui est plus longue. Donc ça, c'est l'Agence régionale de santé qui permet de valoriser la consultation plus longue auprès du médecin ou de l'infirmière formée à la tabacologie, d'une part. D'autre part, il y a des consultations gratuites pour les patients en diététique, jusqu'à 4 consultations, et également en ce qu'on appelle pour se défaire de sa dépendance comportementale, donc vous savez, la gestuelle, les pensées associées quand on a cet objet cigarette toute la journée. Donc les consultations auprès d'un psychologue sont prises en charge directement par Tabagir, donc financées par l'État. Et ça, c'est pour Tabagir, mais aussi sur d'autres consultations hospitalières qui sont mises en place en tabacologie.
Vous organisez plusieurs actions de sensibilisation ouvertes au public, hein, notamment dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. J'imagine que l'objectif, c'est de faire le premier pas, d'aller directement vers les gens.
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on propose des stands au plus proche des habitants. Alors après, on le fait en règle générale avec des partenariats locaux. On a beaucoup de partenaires qui nous sollicitent, comme des hôpitaux. Par exemple, on a des cliniques privées, on a des centres de santé municipales, des structures telles que l'AFPA, par exemple, l'AFPA dans la Haute-Saône et dans la Nièvre. Donc, deux structures qui sont plutôt intéressantes pour des structures de réinsertion et des centres de santé municipaux. Voilà, c'est vraiment très très divers et varié, mais on essaye vraiment de répondre au plus proche de la population, en sachant qu'on peut pas être partout malheureusement, mais on essaye quand même de répondre au maximum aux sollicitations qu'on peut avoir sur l'ensemble du territoire.
Transition toute trouvée, effectivement, dans la Nièvre, il y aura une action de mobilisation le 14 juin à l'AFPA de Nevers. Qu'est-ce qui sera proposé sur place?
Alors l'idée, c'est de pouvoir discuter avec une personne qui est formée à la tabacologie. Le test le plus important, en fait, c'est le test de monoxyde de carbone expiré. C'est un outil, donc un CO testeur, qu'on ne trouve pas, même chez son médecin généraliste, s'il n'est pas formé à la tabacologie. Mais vraiment, dans la consultation de tabacologie, ça permet de mesurer, comme je le disais en introduction, son taux de monoxyde de carbone expiré, donc son intoxication au monoxyde de carbone. Quand on fume pas, on n'en a pas, et quand on fume, on en a un taux plus ou moins important, qui nous sert beaucoup en consultation de tabacologie pour ajuster la prescription, les traitements à adapter aux patients. Et puis, je voulais rajouter aussi qu'on est aussi au Centre de santé municipale de Varennes-Vauzelles.
Le 17 juin.
Voilà, le 17 juin.
Même format que le CALAFPA ?
Oui, tout à fait. On propose des tests. Et puis, donc, comme on est formé à la tabacologie, on travaille avec la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est. On situe un petit peu son niveau de motivation. Et puis, on essaye de l'emmener vers, de faire avancer sa motivation et sa réflexion vers l'arrêt du tabac.
On dit, alors, je parle sous votre surveillance, qu'il faut, je crois, entre 10 et 15 ans pour récupérer des poumons, je dirais, classiques.
Oui et non. Après, les bénéfices de l'arrêt, on en a très rapidement. Alors, il faut voir vraiment aussi le court terme, parce que la difficulté en tabacologie, c'est qu'on fume, on sait qu'on se fait du mal, mais on ne le sent pas forcément. Et ça, c'est compliqué à intégrer dans chaque personne, parce que dès qu'on arrête de fumer, donc c'est ça qui est bien avec le CO testeur, c'est qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire qu'on a un taux, quand on fume, on a un taux, je dirais, allez, on va dire autour de 15-20 ppm particules par million, et dès qu'on arrête de fumer, au bout de 48 heures, ce taux redevient normal, donc entre 0 et voire 5 grands maximum. Ça, c'est lié souvent à la pollution, à l'environnement. Si on a un taux entre 0 et 5, sinon on peut être à 0. Souvent, je suis à 0, donc voilà, quand on fume plus ou pas. Et ça, c'est un bon indicateur aussi. C'est-à-dire que si le patient, il vient sur un stand, il fait son CO testeur, il va avoir un chiffre qui va s'afficher. Vous savez, c'est comme les malades du diabète, ils suivent leur taux de glycémie. Et bien là, dès qu'on arrête de fumer, on gagne directement. Donc, on s'oxygène mieux et donc le monoxyde de carbone est évacué de l'organisme au bout de 48 heures. Et donc, ça permet au sang de mieux circuler. Je rappelle juste que le monoxyde de carbone, c'est ce qui développe ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Donc, j'aime bien dire, si vous permettez, que ça bouche la tuyauterie. Et c'est très visuel et compréhensible par tous. Et dès qu'on arrête, justement, on arrête de mettre ce monoxyde de carbone dans son organisme.
On parle des
récupère, effectivement, au fur et à mesure. Alors, très rapidement, hein, le goût, l'odorat, l'effort. Dans l'effort, on sent qu'on est plus facile, c'est facilité. Et ensuite, les effets à plus long terme, bien évidemment, le risque devient quasiment... pas d'un non-fumeur, parce que ça, on peut pas revenir en arrière sur certaines choses, mais on gagne beaucoup sur même le risque de certains cancers.
Ah, donc les premiers signes qu'on aille mieux quelque part arrivent quand même relativement vite.
Oui, on en identifie pas mal au bout des premières semaines quand même.
Oui.
Le teint aussi, le teint de la peau, hein, parce que c'est beaucoup plus oxygéné. Le souffle, l'odorat, comme je disais. Enfin voilà, et puis sans parler du monoxyde de carbone, parce qu'on ne le mesure pas, mais quand on le mesure dans la consultation de tabacologie, on voit qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire.
On parle un peu des fumeurs. J'aimerais qu'on parle aussi des personnes qui les accompagnent. Alors ça peut être, leurs compagnons, leurs enfants. Ça peut être un poids quand même. Est-ce que eux aussi peuvent venir avoir des conseils pour mieux aussi donner des conseils à leur tour?
Oui, tout à fait. Alors, ces stands sont bien évidemment plutôt ciblés pour les fumeurs, mais les non-fumeurs ou même ex-fumeurs, je dirais, on est tous concernés par la problématique du tabac, parce que on a tous dans notre entourage un fumeur. Et donc, d'avoir des informations, ça peut être sympa, de façon à dédramatiser aussi, hein, et ne pas faire culpabiliser les fumeurs, parce que parfois dans notre entourage, on peut avoir des personnes qui insistent, oui, il faudrait vraiment que tu arrêtes de fumer, etc., c'est pénible, etc. Alors que, comme je le disais, et je le répète sans cesse, c'est une addiction, c'est très difficile d'arrêter de fumer. La moitié des fumeurs peuvent arrêter seuls, mais l'autre moitié ont une dépendance très très forte, avec une imprégnation telle qu'il est très difficile d'arrêter de fumer seul. Et c'est aussi pour ça que Tabagir est là, pour accompagner le fumeur vers une nouvelle vie sans tabac.
Avant de conclure cette émission, j'ai encore deux petites questions à vous poser. J'aimerais vous entendre sur le tabagisme passif, c'est le fait de recevoir de la fumée alors qu'on ne fume pas soi-même par ses potes ou par ses... en tout cas, les gens qui sont à côté de nous et qui fument. Ça peut se passer dans les fumoirs de boîtes de nuit, ça peut se passer devant les lycées. Hein, Bac FM est une radio lycéenne et il suffit d'aller devant pour voir qu'il y a des fumeurs. C'est un vrai risque, le tabagisme passif, j'imagine.
Alors oui, c'est un vrai risque et il est clairement identifié et responsable d'un certain nombre de morts dues au tabagisme passif. Et là, il faut juste mettre un petit peu la différence, c'est-à-dire que quand on fume dans une pièce fermée ou même la fenêtre ouverte régulièrement. Par exemple, je vais prendre l'exemple dans un salon. Il y a une personne qui fume régulièrement et son conjoint ou sa conjointe ne fume pas. Donc en fait, en étant à côté de la personne fumeuse dans une pièce fermée, on fume, en fait le non-fumeur fume, il est exposé aux mêmes toxicités de la cigarette que le fumeur. Donc ça veut dire qu'il fume sans fumer, vous l'avez très bien dit.
Et il est exposé aux mêmes risques.
Ouais.
Waouh, okay, c'est important de le dire ça.
La durée de l'exposition qui est aussi importante. Et puis par contre, quand on est dehors, bien évidemment, on peut sentir un peu la cigarette, on peut la respirer, en tout cas la fumer, mais on va être beaucoup moins touché que si c'est fait régulièrement. Il y a la récurrence de l'action et de l'immersion, je dirais, dans la fumée de cigarette pour le tabagisme passif. C'est aussi pour ça qu'on avait interdit de fumer, vous savez, dans les bars et les restaurants.
Oui.
Parce que les salariés de ces établissements étaient sans arrêt baignés dans leur quotidien, dans la cigarette, et que beaucoup ont eu les effets de la cigarette. Voilà, les maladies se sont déclarées chez beaucoup de personnes comme ça.
Pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont peut-être l'habitude de fréquenter des lieux comme des fumoirs sans forcément fumer eux-mêmes, là j'imagine que l'effet il est démultiplié. Il y a plusieurs personnes qui fument dans la même salle, donc la pièce est par définition enfumée. Là j'imagine que l'effet est plus vaste.
Ouais, ça c'est carrément dommageable, je dirais. Et normalement les normes d'extraction doivent être telles que je pense pas que ce soit ça ferait un brouhaha énorme. Que ce soit respecté à ce titre, ou alors ils sont parqués à l'extérieur, à moitié abrités. Donc effectivement, si on passe par là, moi j'ai fait l'expérience il y a quelques temps de ça, enfin voilà, quelques années même je dirais, mais c'est l'enfer en fait, parce qu'on est imprégné vraiment de cigarettes.
J'ai une dernière question pratique, Françoise Amelot. Comment on suit les actions de Tabagir et comment on fait pour vous contacter surtout ?
Eh bien écoutez, vous pouvez, donc pour les patients qui souhaitent juste poser des questions ou avoir des renseignements sur notre prise en charge, ils peuvent tout simplement appeler Tabagir au 03 86 52 33 12, 03 86 52 33 12. Allez voir notre site internet bien évidemment où il y a beaucoup d'informations et puis venir un petit peu voir nos réseaux sociaux, hein. On a Instagram, Facebook et LinkedIn. Voilà, donc venez nombreux, venez nous aimer sur les réseaux sociaux.
Eh ben merci beaucoup Françoise Amelot d'avoir été avec nous sur Bac FM.
Ouais. Merci à vous, merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à nous contacter ou l'entourage, on est là pour vous écouter et vous accompagner.
Émission à retrouver en podcast www.radiobacfm.fr et coucou à la team replay qui nous écoute sur internet. C'était Prévence sur Bac FM, l'émission où on vous parle santé. Restez avec nous, le meilleur médicament du monde, la musique, revient tout de suite sur votre radio rock metal préférée.